Ben moi, j'ai découvert Fanon très jeune, j'étais au collège, parce que moi je suis martiniquais.
On en parle?
Ouais, non, à cette époque-là, non. Non, justement. Parce que c'est le paradoxe en fait, il est martiniquais, mais moi je sais qu'en tant que martiniquais, Fanon il était mis dans une boîte. Il était mis dans une boîte, et moi je sais que quand je l'ai découvert au collège, et j'ai ramené ce premier livre que j'ai lu pour Noir Masque Blanche. Ben, je me rappelle plus si c'était en cours d'histoire, je sais plus. Eh ben, le prof, il me dit de ranger ce livre et de plus le ramener, ce livre ici.
Ah,
ouais. Ouais. Là, on est en quelle année? On est en 1900. Ouais, on est dans les années 80, là. Ouais, on est encore. Ouais. Ouais, on est dans les années 80, ouais. Années 80. Et donc, moi, je lis le livre. Et effectivement, en lisant ce livre, à un moment, je le ferme. Parce que
c'est trop.
Il me renvoie quelque chose que je vois dans ma société martiniquaise. Et je commence à comprendre pourquoi que ce mec-là, on l'a mis, on veut pas parler de lui. Et après, le film, effectivement, il retrace vraiment... sur la colonisation, parce que c'est vrai, enfin non, il était anticolonialiste, on peut pas le nier. On peut pas le nier, ça. Et je pense que tout ça fait que, ouais, bah, il a été occulté par le peuple martiniquais. Et je rends grâce encore parce qu'aujourd'hui, on a des rues, des collèges qui portent le nom de Frantz Fanon. Et ça, c'est un pas qu'on a fait, quoi, jusqu'au film qu'on a vu dernièrement. Donc, c'est un pas qui est franchi. Il avait une idéologie. On n'était pas prêts pour ça. En plus, entre-temps, il y a eu Césaire qui est arrivé, la négritude, tout ça, avec Senghor. Oui, c'est ça, c'est Senghor. Donc, tout ça a créé quelque chose. Donc, je pense que le peuple a pris un virage. Et ouais, voilà, c'est un choix. Je pense que c'est des choix, ça. Ce sont des choix.
Moi, je suis un peu novice sur la vie de Fanon. Et en repensant à ce que tu nous demandais tout à l'heure, je l'ai découvert par hasard, il y a 5 ans. Quand je cherchais des citations pour nourrir mon projet de podcast. Et je voulais des citations à l'époque, je me suis dit, ah, je veux des citations de personnes qu'on n'a pas forcément vues, je veux des femmes et des hommes noirs. Et j'ai commencé à chercher comme ça et je suis tombé sur des citations de Frantz Fanon. J'ai pas été très courageuse pour aller lire son travail en me disant, bon, bah, au moins je sais qu'il existe. Et j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Donc moi, je suis très content d'avoir découvert un peu plus l'histoire. Alors, ce que tu en dis là et ce qu'on voit dans le film, ça fait un bon complément. Parce que le film tout seul, c'est pas suffisant. Ça a réveillé ma curiosité par rapport à ce monsieur-là. Et c'est vrai que ce matin, je pensais à lui et à ce que j'avais découvert de son lien avec l'Algérie. Et ça m'a fait me dire, bon, on est tous et toutes africains et africaines, en fait. Et ça m'a ramené à ça. Là où parfois les gens essaient d'opposer l'Afrique noire et le Maghreb. Voilà. Et du coup, j'étais contente qu'il ait réussi à créer quelque chose par rapport à ça, et j'étais contente de me dire qu'il y avait des choses encore à découvrir sur une façon de réveiller son cerveau. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi j'ai pas découvert ce monsieur-là avant, à l'école par exemple, tout simplement.
Bah, déjà, il y a le traître à la nation française, et les Martiniquais jusqu'à aujourd'hui sont français. On n'enseigne pas, enfin, on fait pas de pub pour les livres d'un traître, quoi, enfin, de base. Et je pense qu'il y a aussi tout le spectre du communisme qui plane au-dessus. Et donc, dans son choix de défendre l'Algérie, il y a aussi tout ça. Césaire a dû démissionner du parti, quitter le parti communiste pour pouvoir prendre la place qu'il a pris en Martinique, pour être soutenu aussi par l'État français, obtenir la départementalisation. Je pense que ce lien au communisme faisait au moins autant peur, si ce n'est plus, que que sa part anticoloniale. Et il y a ce côté, bon, ben, il a choisi d'être avec eux, qu'il reste avec eux, quoi.
Si je peux me permettre d'ajouter pourquoi Fanon a été occulté, ça me fait penser à Léon Contre-en-Damas, qui a aussi une parole très forte et très anticoloniale et très rappeuse, si on peut dire. Et effectivement, Fanon aussi, j'ai refermé le livre. Donc, parce que voir la vérité en face... Et surtout que ce que tu dis, effectivement, c'est que nous, nos parents, sûrement saisis hein, par l'après, ou saisis par l'après comme leurs parents avant eux, etc., il a fallu du temps et des générations pour qu'on sorte de ce saisissement, de ce que je dis toujours, de la première trahison pour moi, qui est cette indemnisation du colon et ce retour au travail dans la plantation. Donc effectivement, il y a quelque chose de saisissant, une liberté qui n'a pas vraiment été donnée. Et peut-être qu'on continue, il faut survivre et qu'on oublie. Et je pense que comme Damas, Fanon vient dire les choses clairement. Et c'est dérangeant quoi, pour les gens. Et déjà le titre, hein. J'avoue que déjà le titre, Peau noire et masque blanc, quand on ne connaît pas, sa famille ne raconte pas l'histoire, parce que nos familles ne nous racontent pas. On ne sait pas qu'on est descendant d'esclaves. Hein. On le découvre en grandissant qu'on est descendant d'esclaves. Hein. Donc, quand on voit le titre, il est au pluriel en plus. Le titre, rien que le titre, est un saisissement. Est une claque, le titre de Fanon. Et moi, quand est-ce que j'ai découvert Fanon ? J'ai découvert Fanon à la fac de lettres, ici en France, dans un cours de littérature francophone où il n'y avait personne de francophone. Donc j'ai dû entendre certaines choses sur les auteurs de chez nous. Et puis voilà, donc je n'ai pas relu Fanon depuis un moment. Je vais sûrement le relire... sous peu. J'avais l'intention de le relire d'ailleurs, puisque à travers un autre personnage de la littérature caraïbéenne francophone, il est apparu. Puisqu'il parle d'une femme dans Peau noire et masque blanc, il faut que j'aille relire le passage justement. Donc voilà, et je me rends compte que Fanon, même si ça fait longtemps que je n'ai pas relu, et que je ne l'ai lu qu'une fois, parce que c'est une lecture, en fait, ces figures tutélaires pour moi que sont Fanon et Damas parcourt ma vision du monde et mon regard posé sur l'altérité, la manière dont on regarde mon altérité. Voilà ce qui est pour moi Fanon et Damas.
Quand on parle justement des grands auteurs noirs, moi j'ai grandi au Sénégal. J'allais dans une librairie à Dakar qui s'appelle Les Quatre Vents, et où donc il y avait un rayon plus dédié justement à la littérature africaine et penseurs de la négritude, puisque moi ça m'avait surprise qu'à ce moment-là que pourquoi il y avait ce « et », penseur de la négritude. J'ai compris après parce que justement, on ne pouvait pas dire littérature noire ou auteur noir. Et comme il n'y avait pas que des Africains justement dedans, c'était Africain et penseur de la négritude. Et je me souviens que ce titre de « Peau noire, masque blanc » m'avait frappé, et donc j'avais ouvert le livre, et que là on parle d'un moment où j'avais moins de 15 ans, donc et où juste du coup la langue et surtout le la la division, le chapitrage du livre m'avait complètement rebuté, quoi. J'ai dit, ah non, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dur, et c'est pas pour moi. C'est vers la fin de mes études, donc on doit être aux alentours de 2005-06 par là. Moi, j'avais une recherche dans mes études où je travaillais beaucoup sur la question du métissage et des origines multiples. Et dans ce cadre-là, j'ai cherché justement des auteurs à lire, des penseurs, etc. Et quand j'ai voulu faire, j'allais dire, la liste de ceux que j'avais pas encore lu, le nom de Fanon m'est revenu notamment grâce à un morceau de Cazet qui s'appelle Chez moi, et justement dans ce morceau là il y a un moment où elle dit connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, et je me suis dit ah dans, ouais, et justement c'était le seul de la liste qu'elle faisait que j'avais pas lu, et c'était celui par lequel elle commençait. Et je me suis dit ah ouais, faut, et quand j'ai retapé j'ai recherché Fanon et que je suis retombée sur ce titre de Peau noire masque blanc, là me sont revenues mes images du coup des 80 où j'avais dit ah bah c'est ce bouquin là que j'avais pas lu à l'époque, et c'est donc là que je suis allée à la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts et il y avait Peau noire masque blanc.
Moi, je suis arrivée à Fanon dans mes 30 ans. C'est un copain. Moi, je suis métisse. Et je lui parlais de mon père, qui est malgache, et qui avait des expressions racistes. Et il m'a dit, tu devrais lire ce...
Ton père ?
Mon père, oui. Il a toujours pris la défense du discours sécuritaire, blanc, autoritaire, dans les règles, parce que il y en a des qui font des conneries et c'est à cause d'eux, voilà, qu'on est maltraité. Moi, il m'a fait. Je suis née à Madagascar, j'ai vraiment un prénom typique de là-bas, un nom typique de là-bas, mais comme je suis blanche, ça, voilà, j'ai toujours vécu dans le déséquilibre de ne pas avoir la culture de mon origine alors que j'ai le prénom, que je ne suis pas sûre de la traduction que j'en fais. Voilà, c'est un vrai handicap. Et comme je sais que je partage ça avec énormément de gens aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup plus nombreuses et nombreux à se raconter nos difficultés à intégrer la société française en tant que métisse, en tant que personne qui descendent, qui ont une ascendance africaine ou ascendance coloniale, enfin qui portons cette histoire-là, qui est difficile parce qu'on ne nous en parle jamais et qu'on doit se construire avec une énigme. Il me manque quelque chose. Moi, j'arrivais pas à comprendre mon père, et donc un copain qui faisait des études d'histoire compliquées, tout ça, qui était assez loin dans ses études, me tend ce bouquin de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et quand il m'en parle un petit peu, je me dis, mais c'est tout à fait mon père, en fait, ce qui est écrit là. Sauf que quand moi je l'ai ouvert pour le lire, pareil, j'ai été complètement rebutée par l'écriture et je n'ai pas réussi à aller très très loin dans son récit. Je suis partie comme une voleuse que je suis en études, c'est-à-dire que je suis allée lire des résumés plutôt et j'ai demandé à lui qui l'avait lu, mon pote Michael, de me le raconter, et à tous ceux qui l'avaient lu de me le raconter. Donc j'en ai une culture partielle, mais je l'ai toujours à la maison. Il me suit depuis 20 ans, voilà, j'en ai 50 du coup, ça fait 20 ans que je l'ai à la maison, que je ne l'ai toujours pas relu en fait. Et je me suis rendu compte aussi assez tard qu'en fait il l'a écrit très jeune, Et je me dis, mais comment à cet âge-là, on peut produire une écriture aussi... Voilà, aussi... voilà, mais et en fait, après, j'ai aussi compris qu'il était vraiment très en lien avec Sartre, quand même. Et que du coup, il parlait un même niveau de langage philosophique. Et il rentrait un peu dans ces milieux-là, quoi, en fait. J'avais cette impression-là. Je me suis dit, peut-être c'est ça qui fait que j'arrive pas à comprendre son écriture et à avoir envie de le lire.
Au début, ça m'a fait peur. Parce que j'ai eu peur que ça me mette dans un affrontement. Que j'essayais de temps, enfin comment dire, avec que j'essayais de manager depuis un petit paquet d'années, notamment par rapport justement aux études que je faisais, aux choix de sujets que je faisais, au fait que bah j'étais qu'on était au début de ma scolarité, on était deux noirs dans l'école, à la fin de ma scolarité, c'était plus le même deuxième, mais on était toujours que deux. à un moment, entre les deux, on était passé à trois, mais bon, bref, on parle quand même d'une école avec plusieurs centaines de personnes, donc, c'était douloureux comme lecture. C'était douloureux de pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire que soit je choisissais de faire l'impasse dessus, ou en tout cas de croire que je pouvais faire l'impasse dessus, et que je ne l'intégrais pas vraiment à mes travaux artistiques après, soit je rentrais vraiment dedans, et là, du coup, ça dépassait mon travail quelque part. Enfin... ça m'empêchait de travailler, quoi. Parce qu'on, du coup, ça met dans d'autres réflexions qui quelque part, quand mon cerveau est trop occupé à penser, je peux plus dessiner, quelque part, quand on dépasse un certain niveau d'émotion, soit on est totalement dans une colère, soit du coup, mon cerveau fait que j'essayais de rentrer dans l'analyse de l'analyse, et à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas analyser ce gars-là, de toutes les enfin, ce que le cerveau de ce gars-là a produit. Et donc, à ce moment-là, je l'ai mis de côté. Et je suis revenue sur les parler d'années de la Terre. Pas parler d'années de la Terre. Je suis revenue aux années de la Terre, lapsus, encore grâce à un rappeur qui est Rossé et qui a sorti une compile qui s'appelle Parler d'années de la Terre, pour le coup. Et pareil, ça m'a fait tilt. Je dis à ce moment-là, où j'étais plus vieille, où j'étais plus en études, où j'étais plus dans ce truc-là d'être en permanence dans ces questionnements. Et ce qui fait que j'ai pu, là, non pas lire, juste feuilleter des passages. Parce que, ouais, moi, il y a quand même quelque chose de... Je pense que j'ai besoin... Il y a une poétique que je trouve pas. Dans l'écriture de Fanon, et pour lire beaucoup, il faut, j'ai beaucoup plus de facilité à lire quelqu'un comme Glissant, par exemple, par rapport à, et même comme Césaire, alors que ça peut être plus hermétique pour certaines personnes, mais en tout cas moi la poétique me touche plus, ce qui fait que je peux en quantité en lire beaucoup plus que du Fanon. Ouais.
Mais c'est justement après en rencontrant toute la question personnelle et que je comprends maintenant qui est commune à tous les enfants, enfin les descendants des colonies, c'est qu'on a une part de notre histoire qui a été complètement tronquée, effacée, une part d'identité qu'on ne nous transmet pas. Mon père a jamais parlé la langue de son pays, alors qu'il m'avait donné un prénom typique. Donc moi, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc bizarre. En rencontrant d'autres gens qui portaient les mêmes problématique. Et en voyant que la société française mettait quand même au ban de la société un certain nombre de gens issus des colonies, socialement, j'ai commencé à me dire que là, il y avait vraiment quelque chose qui dépassait mon histoire, qui était et qu'il fallait commencer à lire quand même. Voilà. Mais bizarrement, j'arrive plus facilement à lire des auteurs noirs américains qui parlent du rapport de domination et d'émancipation, comment on se libère par la fierté. Et ces auteurs-là, Baldwin par exemple, parce qu'il a une écriture qui me touche énormément, je la trouve tellement très sensible et avec une colère qui arrive à s'exprimer dans une poésie. Moi, j'aime beaucoup sa rage. Et en fait, c'est en le lisant que j'ai commencé à lire des auteurs français, Aimé Césaire, et à comprendre qu'en fait, avant les Black Panthers, il y avait Césaire qui avait écrit « Mais il faut valoriser notre culture, en fait. » Et on ne peut pas... C'est là où ça m'a réveillée sur mes problématiques personnelles, c'est de lire Aimé Césaire et les résumés de Fanon que j'ai trouvés, qui disent en fait qu'on ne peut pas s'émanciper sans comprendre son histoire, sans la connaître, sans la valoriser, sans retrouver une certaine une fierté. Mais en fait, on ne peut pas croire qu'il y a une fierté dans ce qu'on n'a jamais eu. En fait, c'est un manque, mais qui est toujours là. Et en fait, au décès de mon père, après, je suis allée visiter Madagascar. Et là, tout le monde savait d'où je venais. Quand je disais mon prénom et mon nom de famille, ils disaient « Ah, mais toi, t'es de là, là, là. Ah, » Que moi, je ne sais pas d'où je suis. Là-bas, enfin, j'étais pas sûre. Ils m'ont pas fait payer le visa. Enfin, c'était incroyable. Voilà, c'est une histoire très, qui révèle en fait tous les qui me fait comprendre qu'on est beaucoup à avoir porté personnellement des choses qui sont issues d'une façon de faire du colonialisme, et que quand on enfin, maintenant que j'ai intégré cette problématique-là comme quelque chose de puissant qui est agissant sur nous, qui est opérant sur nous, là, j'ai très envie de lire. Et je suis en train de regarder beaucoup ce qui se passe en Afrique, l'AES par exemple, les États du Sahel, donc Mali, Nigeria et Burkina Faso, qui essayent de s'émanciper du pouvoir de la France. Et du coup, moi, je vois ça comme un espoir quand même de retour à une...
Moi, je dirais que ce n'est pas un retour. Moi, je vois tout ça comme une continuité, même si des paroles ont été occultées. Ces paroles ont continué à circuler quand même, ce qui les a fait ressurgir. Et donc, du coup, pour moi, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment dans la continuité et plus sûr de nous encore parce qu'on sait.
Je vois pas ça ni comme un retour ni comme une continuité, mais plutôt comme un démarrage pour certains, parce que il y a eu des ruptures quand même, je trouve. Il y a rien de linéaire dans ces combats, et effectivement il y a de la colère. On entend beaucoup parler de la Guadeloupe, de la Martinique, qui sont énervés, pourquoi ils sont toujours rageux, c'est passé il y a longtemps, mais ça crée des ruptures pour les autres, parce que moi je suis d'origine malienne, mes parents m'ont pas beaucoup plus parlé de ce que c'était d'être dans un pays colonisé, enfin voilà. Ma mère est née en 53, mon père était né en 45, donc voilà, mais ça fait partie des choses. Après, ils sont arrivés en France, on a été élevés ici, enfin voilà. Donc moi, il m'a fallu très longtemps avant de me soucier du fait d'être noire. Parce qu'on m'a posé des questions. Ah oui, d'accord. Je suis née dans une cité où on était plein de noirs, plein d'arabes, plein de... Voilà, je suis arrivé dans un autre coin où il y avait moins de noirs, pour pas dire qu'on était deux avec ma sœur. Donc du coup, voilà, et puis après j'arrive de nouveau à Paris, où là j'ai un copain qui me dit « Alors, c'est quoi Bastien, tu parles ceci, tu parles cela ?» Je me dis « Bah arrête, pourquoi tu me poses ces questions-là » Et je me suis senti bête. Je fais « Bon, bah, je vais demander à mon père, bah, c'est quoi alors, ceci, cela ?» Et en fait, la génération dans laquelle je suis... On s'en fichait un peu, j'ai l'impression, de ça. En fait, on se dit, bah, on est né en France, bah, voilà. Après, il y a des imbéciles qui, de temps en temps, nous demandent, voilà, là, mais c'était pas tellement une question de est-ce qu'on doit se battre ou machin ou quoi. Nous, nos parents, ils nous mettaient en demeure de réussir, ça, c'était sûr. On entendait en filigrane, parce que vous êtes noir, vous n'avez pas intérêt de vous planter. Mais ils nous disaient pas le fondement du pourquoi et du comment. Mais voilà. Donc, je trouve que c'est une continuité, mais hachée quand même, et puis pas hachée de la même façon pour tout le monde. Tu parles de Madagascar, tu parles de la Guadeloupe, tu parles de la Martinique, tu parles du Mali. C'est pas la même façon de vivre les choses, et finalement, c'est pour ça que je disais le côté panafricain, et ce avec quoi je me suis réveillée ce matin, là, c'est de dire, bah, ouais, en fait, cette Afrique unifiée, en tout cas, il y a quelque chose qui me fait envie. Quand je dis l'Afrique, j'élargis vraiment, à tous les afro-descendants, on va aller chercher aux États-Unis, peu importe, mais se dire, mais en fait, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire encore jusque-là. C'est vraiment, on se tient la main, quoi. Et on arrête de dire, t'es plus noir, t'es moins blanc, t'es ceci, t'es cela. Et parce que moi, c'est ça qui fatigue, ces combats qui sont inhérents à la. Ce qu'on appelle la communauté, qui n'existe pas, en fait, cette communauté, alors, oui et non, elle existe, mais tant qu'on est dans ce truc-là, d'un peu de se jauger et machin, compagnie, l'énergie, moi, j'ai vu plus de pertes d'énergie autour de « Ah, il est de tel village, dadadi, dadada ». Quand j'étais gamine, moi, j'entendais plus ces critiques-là entre gens de soi-disant d'un même pays, mais en tout cas pas du même ethnie, ni machin, là. J'ai plus entendu ça que allions-nous et on arrête de se laisser marcher dessus et nanani nanana. Donc je trouve que là, quand tu parles de continuité, moi, mon histoire ne me parle pas d'une continuité. J'en entendais même pas parler de ces combats-là, de potentiellement de dire qu'on refuse voilà, de se laisser marcher dessus parce qu'on n'est pas né ici, qu'on maîtrise pas bien la langue et ceci et cela. Pour autant, tous ces gens-là, ils avaient une vie avant d'arriver en France et avant de devenir balayeur, femme de ménage comme ma mère ou chauffeur de taxi, ben, ils étaient illettrés, ceci et cela. Et pour autant, arrivés ici, on les regardait comme des cacas. Donc, en fait, j'ai pas entendu l'envie de mes parents, mes tantes et compagnie de dire « Allez, on se soulève, il y a eu des fanons, il y a eu des ceci, il y a eu des cela ». J'ai pas entendu ça, moi. Donc, la continuité, là, j'ai l'impression que plutôt, on va être dans quelque chose d'un rebond.
Par alliance, j'ai de la famille martiniquaise, deux fanons. Le grand frère de ma maman s'est marié avec une martiniquaise dont la maman est la petite sœur de Franz Fanon. Oh de mais justement ma tante me racontait parce que justement moi j'ai découvert assez tard ça que du coup que parce que forcément ça c'est cette grand-mère de mes cousins donc mariée à leur grand-père, ne porte plus le nom de Fanon, vu qu'elle s'appelle c'est Mamie Dongard, donc voilà. Moi, je l'ai connue sous son nom d'épouse. Et donc, quand il y a peu de temps, j'ai découvert ça, j'ai dit, mais comment ça se fait? Enfin, pourquoi? Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Elles ont grandi avec les bouquins de Fanon cachés. Parce que elles savaient que justement elles, les premières fois qu'elles ont lu du Fanon, c'était justement parce que c'était les livres qui étaient cachés qu'elles vous ont voulu voir ce que c'était, parce que leur papa était au Parti communiste et que si jamais il y avait à l'époque mes tantes, enfin elles ont entre 70 et 80 là. Si à l'époque, si la police venait chez eux et qu'ils trouvaient des bouquins de Fanon, c'était pas bon quoi. Donc bah oui, parce que on était dans l'époque, on était avant l'indépendance de l'Algérie. Bah oui, on parle de l'époque. On parle de 1960. Oui, soit dans des années 50-60, ouais. Donc, à l'époque un Martiniquais qui lutte pour l'indépendance de l'Algérie, dont tu retrouverais des bouquins chez quelqu'un qui a une carte au parti communiste, c'est pas bon du tout, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure dans la biographie, il vient d'une famille bourgeoise à l'origine. Et Mamie Dongar, elle avait beau être mariée à un communiste, elle était tout à fait bourgeoise. Je pense que ça aussi, ça joue dans le désamour de la société. Parce qu'il y a aussi de la même façon qu'on n'en veut pas à ceux des nôtres qui arrivent à prendre la place du colon. En miroir, on en veut à celui qui était presque arrivé à la place et qui choisit de rebrousser chemin pour aller dans le fossé avec ses frères, quoi. Donc je pense que Fanon a aussi souffert de ce symbole-là qui représentait de celui qui avait tout pour réussir et qui a tout lâché pour en plus pour ce que eux considéraient comme un autre peuple.
Oui.
En plus. Donc il y a ce double truc, c'est à la fois une trahison entre guillemets de ton peuple pour un autre, et aussi une trahison de classe, d'une classe pour une autre. Et dans les deux cas, pour sa communauté d'origine, je pense, ça représente en plus une dépréciation. C'est-à-dire que ces gens-là, à la fois, s'estiment au-dessus des autres dans les deux sens, aussi bien en socialement que par rapport aux Maghrébins. Et aussi, on est dans une société où il y a de plus en plus de gens comme moi, qui ont des ancêtres divers et variés et connus. Parce que c'est, sauf votre respect, c'est ça la différence. Ce que moi, par exemple, j'estime comme étant une richesse, et qui justement, quand je disais tout à l'heure que j'avais pas voulu trop laisser de part à Fanon dans ma tête, parce que quelque part, ça venait mettre en danger l'apaisement que moi j'avais déjà. Cet apaisement, à moi, il est possible parce que moi, mon métissage, il est sur peu de générations. Ce qui fait que je connais, je sais d'où viennent chacun de mes arrière-grands-parents. Ça, et même mes arrière-arrière-grands-parents, je peux trouver leur nom, d'où ils sont nés et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui les a amenés là où ils sont, et pourquoi ils sont français, parce que il y en avait, j'ai des arrière-arrière-grands-parents noirs déjà français et des arrière-arrière-grands-parents vietnamiens déjà français et pourquoi ils étaient français, à quel moment ils ne l'ont plus été ou pas, qui a fait le choix, qui a décidé de l'être, qui a décidé de ne plus l'être, et c'est quelque chose qui me procure une paix, parce que je sais les combats que tous ont dû mener pour pouvoir vivre ensemble. Déjà mes grands-parents, la plupart de mes grands mes grands-parents ont dû chacun lutter contre leurs parents pour pouvoir être ensemble, mes arrière-grands-parents aussi. Et du coup, déjà, à une échelle très réduite, c'est comme un espèce de résumé de cette histoire coloniale. Moi, j'avais une boutade avant, maintenant je la trouve plus forcément, j'allais dire juste, mais à ce moment-là, le mot me semblait bon. Je disais, quand il y avait toute cette polémique sur le rôle positif de la colonisation qu'ils avaient essayé de nous faire passer dans les manuels d'histoire, à un moment, je disais... Oui, bah en fait, si on va jusque-là, le rôle positif de la colonisation, c'est moi. Tu vois ? C'est que sans ça, quelqu'un comme moi n'existerait pas, tu vois. Et je suis bien contente d'être là et d'avoir ce bagage-là. Donc, après tout.
Le chemin est long dans l'apaisement, mais moi, par exemple, j'ai trouvé l'apaisement, en fait. Parce qu'à un moment donné, mon métissage, c'est plus du viol. Je veux dire, ma grand-mère qui est métisse, c'est pas du viol, je suis désolée. Et moi qui suis avec un Breton maintenant, mes enfants, c'est pas du viol, en fait. Donc, au bout d'un moment, il y a l'amour qui a remplacé tout ça. Et puis, je pense que moi, d'avoir eu des enfants métissés dans une culture aussi qui s'est occultée, puisque les parents de mon mari n'ont pas transmis sa culture bretonne ni sa langue, moi non plus d'ailleurs, excusez-moi les enfants, hein. Hashtag prof de lettres. Et en fait, voilà, j'ai trouvé un apaisement par rapport à ça. Il y a un moment, il y a eu cette histoire du bateau, et j'avoue que quand j'écoute des chansons comme Traversée de Nam, petite pub, Nam, j'adore votre album, voilà, ça me parle profondément. La première fois que j'ai vu l'image d'un cale de négrier, bon voilà. Mais en même temps, à l'endroit où je suis, j'essaie de me positionner à l'endroit où je suis, et à l'endroit où je suis une caraïbéenne, du fait que je suis sur deux îles, et je suis le fruit d'une histoire. Et je pense qu'à un moment donné, il faut s'apaiser soi-même. Bon, ça, j'ai dû le faire pour pouvoir transmettre à mes enfants, effectivement, et qu'ils soient fiers d'être métisses, parce que c'est une richesse. Et sans pour autant, puisque mes enfants le disent, hein, mes enfants, même s'ils sont métisses, et pourtant ils sont bretons, il y a aussi une culture bretonne à défendre, ils le disent. La question de nos ancêtres, de cet autre côté-là du monde, comme je dis, qui est ce continent africain, mes enfants me disent que toujours, ça restera quelque chose à... Parce qu'il y a quelque chose, effectivement, à terminer. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons tous soudés. Il y a quelque chose à terminer.
Je te rejoins, j'ai trois fils, moi, effectivement, qui sont... Effectivement, leur père est breton du Finistère blanc. Et donc, métissage avec moi, de fait. En fait, moi, alors mes enfants, c'est pas tellement qu'ils soient en mode allons combattre ou quoi que ce soit, mais ce qu'ils ont eu, que moi je n'ai pas eu, c'est la possibilité d'en parler. Parce que malheureusement, la révolution, on verra de quelle forme elle prendra, mais les consciences ont encore besoin d'être éduquées. Parce que mes enfants, autant qu'ils sont, ils ont tous eu des insultes à caractère raciste. Et on se dit, bah, et moi quand je raconte ça à des gens blancs, ils me disent « Ah bon, en 2025 encore ?» Mais parce que oui, le passage d'une année à une autre ne fait pas disparaître ces choses-là. Et malheureusement, mes enfants ont eu à vivre ça. Pour autant, ils ont le droit de me le dire. Ou en tout cas, mes parents, c'est pas qu'ils nous avaient interdit de leur dire, mais on sentait qu'ils avaient déjà tellement d'autres choses à gérer qu'on n'allait pas leur rajouter. Bah, tu sais, j'ai entendu ça, on m'a traité de ceci ou on m'a fait cela. Et donc du coup, je pense que cette possibilité-là que l'on donne à nos enfants aussi de s'exprimer, elle est hyper importante. Et on en parle aussi à l'école. On parle de discrimination à l'école, ce que dont moi j'en avais jamais entendu parler au collège, au lycée. On parle de beaucoup beaucoup plus de choses. Il faut aussi qu'on se rende ce qui nous appartient également, c'est-à-dire que on ouvre nos bouches, ce que nos parents ne faisaient pas. Et là, le temps qu'on prend ce soir, déjà, moi, ma mère, je le disais, était femme de ménage, mon père était chauffeur de taxi, ils étaient claqués. Donc, on dit, oui, les gens d'origine africaine ou machin, ils s'engagent pas. Mais à quel moment, en fait? Quand t'es claqué et que tu sais que le lendemain, tu dois faire une longue journée, machin, tout, faut avoir le temps de réfléchir. Ça veut pas dire que tu ne réfléchis pas, ça veut juste dire que entre aller payer ton loyer, travailler, machin, et prendre le temps de venir discuter avec d'autres qui pensent sûrement comme toi, tu choisis tes combats, en fait. Donc nos parents ont fait comme ils ont pu. Nous, on a en tout cas quelque chose qui est plus accessible et qui nous permet de prendre du temps de lire, d'écouter, de se parler et de s'autoriser à dire un peu de tout haut. Voilà, de se dire bah ah ouais, toi tu vis ça aussi, bah voilà, on s'autorise à se réunir aussi entre personnes concernées par un même sujet sans avoir honte, sans se dire ah bah mince, on a chassé des blancs ou des arabes ou des noirs ou peu importe, on a droit de faire ce qu'on veut, on est encore dans un pays qui nous permet ça, donc utilisons cette possibilité là et maintenant effectivement moi j'en ai le bit tordu de penser que mes enfants vont vivre encore moins bien que ce que mes parents et moi-même avons vécu jusqu'à présent.
Le positionnement identitaire est tellement plus précoce. Je dis pas chez tous, hein, parce que ça dépend comment ils sont élevés, comment tout est transmis. Mais si je prends exemple sur ma fille, qui est une jeune fille métisse non racisée, les stratégies qu'elle met, enfin, tout ce qu'elle a les conclusions qu'elle a mis en place, etc., pour se positionner en tant que ce qu'elle est, c'est quand même, ça fait un petit bout de femme prêt. Et voilà, c'est assez.
J'ai lu dernièrement un bouquin sur Madagascar, 1947, les massacres, au moment où les Malgaches ont demandé à la France d'aller au bout de la promesse de l'indépendance, alors que tout le monde est allé sauver la France. Et donc la France qui fait des massacres dans tous les villages, et on te raconte quand même une époque où les militaires français prenaient les dissidents, et ils circulaient avec les avions au-dessus des forêts où les gens se cachaient, et ils balançaient les corps des gens vivants. Donc, en fait, il faut se rappeler quand même que, comme l'esclavage, le colonialisme est une terreur sur un pays. Et quand on critique la violence de Fanon qui veut se battre, il faut quand même se rappeler qu'il y a une violence terrible, comme le nazisme, les occupants terrifiants, tyranniques, terroristes, en fait, qui retournent le vocabulaire de terroriste aux résistants, et qu'en fait, face à une violence, à un moment, tu ne peux que te révolter et répondre. Donc moi, je ne suis pas complètement choquée par le discours de « il faut prendre les armes », parce qu'à un moment, et on le voit là avec, je ne sais pas si vous ressentez quand même ce qui se passe en France et dans tout le monde, avec un international fasciste qui se met bien en place, il y a quand même la question qui va se reposer. Est-ce que nous, socialement, on va s'unir et se défendre tant qu'on peut encore démocratiquement, mais qu'à un moment... Enfin, je veux dire, la question, elle va se poser de terreur. Elle s'est déjà posée dans nos banlieues, et les gens... C'est ça. Moi, quand on parlait tout à l'heure de Guadeloupe, Martinique, il y a quand même des émeutes de la faim. Et, on appelle ça du pouvoir d'achat, mais c'est quand même de la faim. Avec aussi les vrais scandales de chlordécone. Enfin, je veux dire, on a... Aimé Césaire en parlait déjà. On a tué la culture vivrière et pour surexploiter des territoires. Donc, il faut quand même... on n'a pas eu justice, réparation de tous les torts faits par la colonisation, et elle continue à certains endroits. On voit aussi que les Comores, tous ceux qui ont choisi l'indépendance, et même tous les pays d'Afrique, l'ont payé très très cher. Le tribut, en fait, n'a pas été comme au moment où on a... arrêter l'esclavagisme. En fait, on a indemnisé les esclavagistes et les indépendants. On n'a pas réparé. Non. Et donc là, il y a... En fait, il y a quand même un truc sur la violence que moi, je comprends de plus en plus de manière accrue. C'est qu'à un moment, pour renverser quelque chose de tyrannique, comment faire autrement ?
Voilà. En face, ils sont violents pour instaurer et pour garder. Donc, effectivement, la question se pose, comment on... Après, on a vu que toute forme de violence n'aboutit pas vraiment à rien. Et puis, moi, j'ai un sacré concept, moi. C'est le concept du fruit pourri. Donc, le souci qu'il y a, c'est quand on veut révolutionner. On l'a vu en URSS, ex-URSS. Il y a quelqu'un qui fait son petit chemin et bingo ! Voilà, l'idéal est... c'est très compliqué, quoi. Cette histoire de la violence, elle est très complexe. Et je pense que chacun... en contexte, effectivement, on peut comprendre qu'il en arrive à cette solution. Parce qu'effectivement, quand l'autre en face... qui prend, moi, c'est quelque chose qui, vu un soir, un journaliste jambes croisées dire que cette histoire de colonisation des pays, cette histoire d'aller dans les autres pays pour trouver l'Eldorado, la paradis terrestre, etc., c'est somme toute, comme toute histoire d'invasion de l'humain, mais là, on parle bien d'humains qui sont arrivés dans les pays en se disant plus éclairés qu'eux. Mmh. Et donc là, le souci pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que cette hypocrisie-là, elle est intenable, en fait. Elle est insupportable pour nous, d'autant plus que nous, on la perçoit beaucoup plus accrûment que nos parents. Nos parents n'étaient pas en état, et les parents de nos parents n'étaient pas en état de comprendre cette hypocrisie-là. Mais nous, là, on la sait maintenant, cette hypocrisie-là, et ça devient insoutenable, quoi. Mais il faudra certainement une forme de quelque chose de radical, peut-être, pour amener l'autre en face, puisqu'on voit comment ils sont... Ils ont un peu la cacarelle là, donc ils sont en mode masculiniste, etc. Donc on voit bien que voilà, ils veulent pas lâcher non plus. Donc on peut comprendre que certains, face à cette incapacité de celui qui est en face, de comprendre que ce qu'il a fait c'est pas bien et de l'accepter et de le comprendre et repartons, parce que c'est toujours nous qui sommes hommes de bonne volonté en fait. Et c'est ça le souci quoi. Le souci c'est qu'est-ce que ceux d'entre nous accepteront toujours d'être toujours homme de bonne volonté. Parce qu'on ne peut pas à la fois honorer Maryse Condé alors qu'on l'a ignorée pendant tout son vivant, et puis emprisonner un lanceur d'alerte qui, on le voit bien, ne fait rien de violent et qui se fait mutiler par les forces. Il n'a pas d'armes. Au bout d'un moment, on voit et on sait. Et on voit ce qu'ils font. Et c'est clair. C'est pour ça qu'en contexte, cette pensée, on peut la comprendre, même si humainement, cette pensée nous fait horreur, parce qu'on sait qu'elle ne marche pas en soi, quelque part. Et on le voit bien un peu aussi, ce qui se passe après, c'est-à-dire dans un groupe avec des idées d'autonomistes, etc., il peut y avoir des anguilles sourches.
De quoi j'ai l'air? Khalebouler. Leginak roulibot. Not just black, but. T'es pas blanche non plus, mais alors, d'où viens-tu? D'un peu partout, alias Gwenadou, I don't understand you, well now you do. Woyolo wachni, upani pays? Bien sûr que si, I come from a country. Né au Sénégal, moi pas en animal, mais où c'est ça? West Africa. But that's not all. Bokonche Creole, Cap Verde Creole, Madina Creole, Guada Creole, je suis une mosaïque créole. Patchwork Powell, Soyuna Hija del Sol. Mi madre es la luna, Vietnamese was my grandma. Soy una citoyenne of Aruna. Être né quelque part et naître de nulle part. Naître quelque part et naître de nulle part. Toujours d'ailleurs et partout à l'aise, incandescente fraîcheur ou glaçante fournaise. Nul désir de choisir, sénégalaise et française, quoiqu'en réalité plus complexée ma genèse. Être né quelque part et naître de nulle part. Naître quelque part et naître de nulle part. N'être quelque part qu'un être de nulle part à la fois de l'un et de l'autre côté métis est l'éternelle altérité. Pourquoi devoir décider sur quel pied danser, puisque pour mieux y arriver, il nous faut nos deux pieds. Je veux être une danseuse, batteuse, à l'indécision heureuse, équilibre et sans crainte choisie de suivre la complainte des BPM de son cœur. Aux mille ardeurs et sans contrainte. Être né quelque part et naître de nulle part. Naître quelque part et naître de nulle part. Naître quelque part qu'un être de nulle part à la fois de l'un et de l'autre côté, je suis l'éternelle altérité. Je suis le funambule aux pieds ensanglantés par les fils barbelés de la frontera herida. Je suis l'équilibriste, et vite en balles et pierres, du haut du triste mur de la bande de Gaza. Je suis l'œuf sur le mur, dans les délires de merveille d'Alice au pays, dans les délires de vermeil d'Alice au pays des merveilles. Je suis le grand échassier, au pied de bois coincé, enraciné des deux côtés des barrières de Ceuta, Imeia. Patriote voltigeux, j'entre dans toutes les forteresses, sans même y être invité. Antidote auto-sécrété dans toutes les sociétés, je suis métissée. Métisse, fil de soie,
et barbelé de frontières, métisse, fier de toi et riche des affronts d'hier, fils des conflits d'autrefois mais de futur, père et mère, demain, monsieur tout le monde, mais aujourd'hui, gens sans terre. Métisse, sois fier. Métisse, je suis d'ici et de là-bas. Des Alpes suisses au Sahara, je suis d'ici et de là-bas, de la baie d'Alon à Caruquera, je suis. Que je sois d'ici ou de là-bas, una citoyenne of Adona. Merci.
ASMR.